Bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky et Christophe à la technique. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Voilà, ce matin 12 septembre, c'est parti pour une nouvelle saison de l'économie en direct. Merci d'être au rendez-vous et je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mardi et vendredi avec bien sûr toujours plus d'invités et de chroniques. Une émission à écouter en FM sur la fréquence 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. L'effondrement climatique a commencé, c'est le constat du secrétaire général de l'ONU à l'issue d'un été qui a battu tous les records en termes de chaleur, accompagné de son cortège de catastrophes climatiques, en cause toujours et encore les énergies fossiles. Un sujet dont on parle de plus en plus et qui impacte notre quotidien à plusieurs niveaux. L'un d'entre eux, le logement, et au-delà du confort et des objectifs environnementaux, la valeur verte ne va cesser d'évoluer et nous obliger à revoir notre copie en matière d'économie d'énergie. Plusieurs pistes s'offrent à nous, dont la rénovation énergétique, un défi crucial. Et pour en parler, j'accueille ce matin Jean-Luc Sossois. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Ravi de vous accueillir pour cette reprise de l'économie en direct.
De même.
Président de la CAPEB 95, Confédération d'artisanat des petites entreprises du bâtiment, vice-président CAPEB Grande Couronne Île-de-France, vice-président U2P 95. Vous êtes d'abord un chef d'entreprise.
Tout à fait.
Gérant de la SARL Sossois, associé de la coopérative artisanale de construction.
Copartibat.
Voilà. Alors, nous parlerons bien sûr de la CAPEB et de ses actions, mais aussi, comme annoncé dans le sommaire, de rénovation énergétique et de toutes ses implications qui en découlent. À vos côtés, Ludovic Mirmont. Bonjour Ludovic.
Bonjour à tous.
Merci d'être au rendez-vous à mes côtés ce matin. Vous, Ludovic, êtes le secrétaire général de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, et ce depuis 1995, une confédération que vous connaissez donc bien et dont vous nous direz pourquoi elle est présente notamment au Rénodez aujourd'hui et demain Porte de Versailles, mais pas que, puisque vendredi se tiendra un autre événement CAPEB dans le Val d'Oise. Voilà, on avait peut-être... Madame Marie-Pierre Chalmel était éventuellement... pouvait être là, mais voilà, elle n'était pas là. Elle n'est pas là, qui est vice-présidente de la CAPEB 95.
Elle s'excuse.
Bien, merci. Merci pour elle. Et alors, si le mois de septembre veut dire rentrée, c'est aussi le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. L'occasion pour nous d'évoquer l'association Élise, princesse courageuse, et une exposition du Paraître à l'être qui se tiendra à partir du 18 septembre, espace Lucie Aubrac, à Montmorency. Et pour en parler à nos côtés, Vanessa DeVos. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Merci infiniment pour votre présence. Infirmière, cadre de santé, vice-présidente bénévole de l'association Élise, princesse courageuse, mais surtout maman d'Élise, partie beaucoup trop jeune des suites de cette maladie. Aujourd'hui, l'association Élise, princesse courageuse œuvre sans relâche dans la prise en charge du cancer de l'enfant à travers plusieurs actions et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. À vos côtés, Émilie Minck-Montuclar. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Merci également pour votre présence chez IDFM Radio. Photographe, créatrice et dirigeante du studio Pixeli à Saint-Leu-la-Forêt. Vous nous expliquerez comment vous êtes devenue la photographe de cette exposition, comment vous êtes devenue déjà photographe tout court, et puis la photographe de cette exposition du paraître à l'être. Bienvenue et encore merci d'être tous les quatre invités, les invités de l'économie en direct. Une émission à retrouver en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr. Et pour bien démarrer l'émission en ce merveilleux jour de mardi, eh bien nous retrouvons aussi notre chroniqueur préféré de l'Instant Saveur. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline.
En forme après cette longue pause?
Ah mais oui, ça va très très bien depuis tout ce temps. Je vois que vous êtes resplendissante, comme toujours, que Francky est en pleine forme et que vos invités ont le sourire. Bref, que la banane, tout le monde a la banane et c'est super. C'est donc reparti, comme vous dites, pour une nouvelle saison. Et je vais essayer de vous faire plaisir avec des nouvelles recettes. Vous avez un peu cuisiné cet été, Jacqueline ?
Oui, un peu.
J'en étais sûr.
Moins d'habitude, quand même.
Oh, quand même. Mais moi non plus, je n'ai pas arrêté. Avec la venue des enfants, des petits-enfants, on affichait complet. Mais j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Tiens, d'ailleurs, j'ai découvert une petite recette sympa qui va nous faire prolonger cet été. Vous allez voir comme c'est facile et puis c'est super bon. On va faire des rougets à la purée d'huile d'olive. Cette recette est une véritable pépite. Vous allez vous régaler, du moins, je l'espère. Alors, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Hein, on va faire ce plat pour 4 personnes. Il vous faut donc 6 rougets, pas trop petits, et vous demandez à votre poissonnier de lever les filets, de décailler le poisson, tout en gardant la peau, hein, c'est important. Et quand je parle de rougets barbets, non de rougets grondins. Il faut savoir que le barbet a une chair beaucoup plus fine. Et encore une petite précision, c'est un poisson fragile, il faut donc le consommer tout de suite, hein, dans les 24 heures. Vous aurez donc aussi besoin de 2 filets d'anchois salés, 2 fenouilles, un citron, 200 g d'olives noires dédoyautées, une gousse d'ail, 2 brins de basilic, 8 centilitres d'huile d'olive, un trait de vinaigre de xérès. Alors pour commencer, on va préparer la purée d'olive. Vous allez voir comme c'est simple. Vous placez les olives égouttées dans le bol d'un mixeur et vous ajoutez la gousse d'ail épluchée, les filets d'anchois, les feuilles de basilic, 5 centilitres d'huile et le vinaigre et vous faites tourner votre mixeur. Le but, c'est d'obtenir une purée bien lisse. Ensuite, vous lavez et émincer en fine lanière les fenouilles avec une petite mandoline, par exemple, ça fera parfaitement l'affaire. Vous assaisonnez avec un peu d'huile restante et le jus du citron. Vous salez, poivrez et vous laissez ça tranquillement au frais. Vous huilez une poêle et vous faites cuire les filets. Alors attention, petit conseil, n'hésitez pas à enlever les arêtes avec une pince à épiler. C'est bien plus agréable au moment de manger parce qu'il y a quand même un petit peu d'arêtes dans le rouget. Alors là, pour la cuisson, il faut faire attention car ça va aller très vite. En fait, le danger, c'est la surcuisson qui peut dénaturer la qualité du produit. Alors quand votre poêle est chaude, pas trop chaude non plus, c'est 1 minute de cuisson de chaque côté. Mais cela dépend aussi de la taille de vos filets. Oui, je vous avais prévenu, ça va vite. Hein. Alors maintenant, vous pouvez dresser une fois que vos rougets sont prêts. Et oui, parce que le mieux, c'est de servir ce plat à l'assiette. C'est beaucoup plus joli, je trouve, ça va bien avec ce plat. Alors, vous déposez un peu de salade de fenouil dans chaque assiette, les filets de poisson et vous ajoutez une cuillère de purée d'olive sur le poisson. Vous servez ça avec un bandol rosé ou un coteau d'Aix en Provence et je vous assure, Jacqueline, qu'il ne peut rien vous arriver de grave. Alors, je sais que le rouget n'est pas le poisson le moins cher, mais il n'est pas interdit de se faire plaisir si on peut. Ah oui, dernier petit détail, s'il vous le reste de la purée d'olive, surtout vous la gardez et vous pouvez parfaitement en resservir pour une prochaine fois, pour un apéritif sur des petits croutons. Voilà Jacqueline, j'espère que cette recette vous a plu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne cuisine à tous. Au revoir et à bientôt.
Merci Bruno. Bien oui, moi, cette recette m'a beaucoup plu. Je pense que mes invités aussi ont apprécié. On reste dans le sud. Hein,
c'est un petit régal.
Oui, oui, absolument. Merci. Toujours fidèle à vous-même, hein, vos délicieuses recettes.
J'essaye.
Merci Bruno pour cette instant
saveur. Au revoir, bonne émission.
À la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Super. À la semaine prochaine. Au revoir.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
C'est l'économie en direct et pour la reprise de cette nouvelle saison, nous parlons de la CAPEB, de rénovation énergétique, mais aussi de cancer pédiatrique. Septembre en or oblige, avec à mes côtés Jean-Luc Saussois, président de la CAPEB 95, vice-président CAPEB Grande Couronne Île-de-France, vice-président U2P 95, chef d'entreprise de la SRL, Saussois, associé de la coopérative artisanale de construction. Ludovic Mirmont, secrétaire général de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France depuis 1995. Vanessa DeVos, présidente, vice-présidente de l'association Élise Princesse Courageuse. Émilie Minck Montuclar, photographe, créatrice et dirigeante du studio Pixeli à Saint-Leu-la-Forêt. Jean-Luc Sossois, ce matin, nous entamons avec la CAPEB une nouvelle série d'émissions destinée à mieux faire connaître ce réseau structuré, efficace, présent sur tout le territoire, qui représente, défend et promeut les intérêts des entreprises artisanales du bâtiment. IDFM Radio et l'économie en direct vous remercient de ce partenariat.
Merci à vous.
Qui aura l'avantage pendant cette saison de nous réunir plusieurs fois dans ces studios. Et on vous en remercie vivement.
Merci à vous.
Aujourd'hui, juste avant d'aborder le thème du jour, rappelez-nous peut-être les grandes lignes de la CAPEB, Jean-Luc.
Donc la CAPEB est le premier syndicat patronal de France. Nous avons aujourd'hui aux alentours de 61 000 adhérents. Donc c'est très important pour le monde de l'artisanat. C'est énorme, vous l'avez dit. Nous défendons évidemment l'intérêt des artisans et des très petites entreprises du bâtiment. Que ça soit au niveau national, régional, départemental, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais les actions sont grosso modo les mêmes.
Oui, bien sûr, parce que les problèmes se rencontrent sur le territoire.
Et évidemment, nous avons des interlocuteurs à chaque étage, donc il faut qu'on soit présent à chaque étage.
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs actualités qu'on va répartir entre vous et Ludovic Mirmont. Donc il y a le salon Rénodes dont nous parlera Ludovic. Il y a aussi une rencontre vendredi le 15 septembre à Saint-Ouen-l'Aumône.
Tout à fait, à partir de 11h.
C'est ça, je pense que c'est des rencontres qui vont avoir lieu tous les mois, si j'ai bien compris.
Alors c'est tous les mois, mais sur toute la Grande Couronne, donc
c'est
sur l'ambition. Les quatre départements de la Grande Couronne.
Ah oui, ça tourne,
de France,
hein, voilà, très bien.
Grosso modo, c'est trois fois par an pour le 95.
D'accord. Et puis, bien sûr, on va avec vous parler de problèmes vraiment qui sont au quotidien.
Tout à fait, les Français.
Oui, absolument. J'ai annoncé cette rénovation énergétique qui est vraiment au cœur de nos préoccupations aujourd'hui.
Tout à fait.
Si vous voulez nous en dire un
climat,
mot, Jean-Luc.
C'est un chantier, mais ce sont des chantiers gigantesques.
Oui.
Et nous sommes confrontés aujourd'hui à effectivement des objectifs à atteindre, mais de l'autre côté, on va dire, des bâtons dans les roues avec la hausse des matériaux, avec la baisse du pouvoir d'endettement des Français, avec la hausse des taux. Voilà, donc tout ça se complique.
Oui. Alors parmi ces complications, enfin peut-être que là, au contraire, c'est peut-être une bonne nouvelle, la TVA à taux réduit.
Alors c'est encore une bonne nouvelle.
Ça aurait dû être une bonne nouvelle.
Malheureusement, il y a eu un rapport de la Direction générale des finances qui préconise la suppression de la TVA à 10% et 5,5% vers un retour à 20%, ce qui serait une véritable catastrophe pour le secteur du bâtiment et de la rénovation énergétique, que ça soit départemental, régional, national, parce que nous avons des objectifs nationaux à atteindre. Le gouvernement s'est engagé là-dessus. Si on passe à 20%, c'est forcément des bâtons dans les roues.
Et depuis quand cette nouvelle est tombée
Juste avant l'été, au mois de juillet, avant les vacances, comme par hasard. Donc on est très 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 inquiet.
Oui. Vous avez...
Le président Repon, président national, a déjà, je crois, interpellé le gouvernement à ce sujet. On attend des réponses. Nous avons des assises du bâtiment qui doivent être programmées dans les prochains mois. C'est quelque chose qui doit être urgemment organisé, puisqu'il faut pouvoir répondre véritablement à ces défis, mais pas en passant à une TVA à 20%.
Bien sûr.
Sachant que par exemple, pour le dernier trimestre, nous avons déjà un recul de 0,5% au niveau national de notre activité. Donc ça se contracte déjà et on voudrait encore évidemment collecter plus de TVA, mais c'est du court terme, puisque à long terme, malheureusement, ça sera beaucoup moins d'engagement des clients.
Oui, et ça serait vraiment contre-productif par rapport à ce chantier de la rénovation énergétique, qui avec des objectifs où les logements ne pourront plus être normalement habités.
Déjà, les objectifs qui étaient décidés étaient durs à atteindre de par la réponse qu'on pouvait apporter par le manque de main-d'œuvre et de qualification. Et là, aujourd'hui, si en plus on dissuade les Français d'investir pour la rénovation énergétique et donc pour le climat.
Oui, et puis encore une fois, avec les obligations que le gouvernement impose pour les logements, c'est complètement contradictoire.
Ça va être très difficile. Quand on parle de location, etc., avec
bien
vous
sûr,
connaissez.
Bien sûr. Parce que Donc cette TVA à 5 ou 10%, elle intéresse tous les clients qui font des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement, d'entretien.
Voilà. Tous les travaux d'amélioration de l'habitat, donc en l'occurrence énergétique, pour l'habitation, ça ne concerne pas tout ce qui est évidemment commercial, mais tout l'habitat est concerné par cette TVA à 5,5% ou à 10%.
Oui, et que l'on soit propriétaire, locataire ou encore occupant à titre gratuit.
Tout à fait.
Et il faut juste, je crois, que le logement qu'on soit dans le logement depuis plus de 2 ans.
Alors, il y a effectivement l'habitation qui doit être achevée depuis plus de 2 ans. Mmh. Il faut pas, pendant cette période non plus, il y a eu d'autres travaux dans plus de 5 corps d'État de cumuler. Donc c'est un peu complexe, mais on a l'habitude, on sait conseiller nos clients.
Oui. Alors, parmi les mauvaises nouvelles, il y a la hausse des matériaux.
Ça continue.
Voilà, un contexte géopolitique complexe qui génère fortes hausses.
Oui.
Non, c'est un bon prétexte.
Vous savez, je pense que les Français ont l'habitude aujourd'hui, savent très bien ce que les industriels de l'alimentation sont capables de faire.
Oui.
Je pense que malheureusement, il faut dire les choses, les industriels des matériaux de construction font exactement la même chose.
Ouais.
Créent une certaine pénurie. Je vais peut-être choquer par mes paroles, mais c'est vraiment notre ressenti sur le terrain maintenant. Il y a une certaine création de pénurie et on en profite pour augmenter dès qu'il y a une actualité géopolitique. Et ça ne cesse depuis maintenant plus de 18 mois. Je veux dire, l'Ukraine est passée. On va dire que la Russie, il y a certainement des aménagements sur le pétrole qui ont été trouvés, sur le gaz, etc. Bon, vous voyez bien, les prix à la pompe, ça continue. Les matériaux, c'est la même chose, mais que ça soit sur les ciments, sur les chaux, sur les tuiles. Il y a peut-être que l'acier, puisqu'il y a une contraction du marché de la construction en Chine. Donc peut-être que là, comme c'est le marché de l'acier mondial, il y a une baisse, mais c'est rien par rapport à la hausse de tous les autres matériaux.
Ce qui veut dire, à travers vos propos, que vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas cette politique.
Ce qui est compliqué, c'est comme je vous le disais, c'est qu'aujourd'hui, les Français ont un pouvoir d'achat qui baisse, une possibilité d'endettement qui est plus faible qu'avant, puisque les taux ont augmenté, les banques sont frileuses, donc prennent beaucoup moins de risques. On a de l'autre côté la hausse des matériaux, on a aussi une tension salariale, c'est-à-dire qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, donc forcément, nous avons, c'est un choix de la région Île-de-France au niveau bâtiment, il y a eu une hausse moyenne de 6,25% au 1er janvier sur les salaires, ce qui n'est pas négligeable, donc ce qui a été répercuté, mais on peut pas augmenter nos prix non plus indéfiniment, donc on peut contracter un petit peu notre marge, mais là on est vraiment en tension.
Oui, c'est vraiment.
On est pris dans les taux. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire presque moins cher,
faire des miracles.
C'est pas possible.
Et vous insistez sur cette manque de main d'œuvre qui devient qui est assez récurrente.
Main d'œuvre et qualification. Encore un autre sujet.
Donc, ce qui fait que vous n'arrivez pas à répondre à toutes les demandes qui vous sont faites.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des délais qui sont parfois inadmissibles pour certains clients, mais qui vont aller un peu à droite, à gauche, sur des entreprises moins sérieuses, on va dire.
Des
entreprises qui n'ont que le nom.
C'est tout le problème, tout le problème. Je sais que la CAPEB a été riche de combats et de victoires. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Ludovic. Vous vouliez nous parler aussi, Jean-Luc Sossois, de France Rénov.
Oui, alors nous avons, la CAPEB 95 a signé un partenariat avec le département du Val-d'Oise et donc France Rénov, qui s'appelait appelant Val-d'Oise Rénov, mais c'est France Rénov. Et donc on voulait faire un rappel pour tous les particuliers qui souhaitent faire des travaux sur la rénovation énergétique, qu'ils peuvent s'orienter vers ce service, France Rénov, qui est facilement trouvable sur Internet, où il va y avoir tous les conseillers, mais des vrais conseillers, qui sont agréés, et qui vont pouvoir les aiguiller, les orienter vers les travaux et vers éventuellement des entreprises, dans un listing large, qui sont qualifiées, avec le label RGE, en fonction évidemment des travaux qu'ils envisagent, puisque tout est bien spécifié en fonction de la qualification. Donc ça, c'est très important. Vous voulez faire un rappel important sur ce sujet.
Oui,
France
Rénov,
c'est vraiment quelque chose de sûr, où il n'y aura pas d'arnaque.
C'est ça. C'est-à-dire, on va y venir aux arnaques. C'est la prise en charge de toutes les améliorations de l'isolation.
Entre autres.
Entre autres. Parce que, bon, on sait bien, on en parle, hein, depuis plusieurs années, on lutte contre les passoires thermiques.
Oui.
Fameuses passoires thermiques. Et l'État, aujourd'hui, fournit de plus en plus d'aide pour effectuer les travaux.
Alors, d'aide, mais Ludovic pourra peut-être en reparler, mais ce sont des dossiers qui restent complexes quand même pour les clients. Donc, il y a des aides, mais
il faut être pile poil accompagné.
Voilà, il faut être bien accompagné, il faut être pile poil au niveau de la facture, pile poil au niveau du devis. Il suffit qu'on ait une petite virgule qui diffère, un petit terme qui ne va pas et c'est recalé et ça repart. Donc, d'où des délais de paiement qui sont un peu compliqués.
Oui, qui se...
J'ai l'exemple d'un client encore la semaine dernière, là, c'est un client, moi, en maçonnerie, mais qui faisait faire des travaux de pompe à chaleur par une entreprise vraiment connue et qualifiée. Et je sais qu'il y avait un petit souci sur la facture parce qu'il manquait une pièce. Donc, voilà. Donc, les gens sont un peu déconcertés de tout ça, puisqu'on nous promet des aides, on leur promet des aides, et finalement, cette obtention d'aide est très complexe, finalement.
Oui, c'est très complexe. Alors, quelles sont les priorités pour faire des économies d'énergie, Jean-Luc ?
Vous savez, c'est comme le corps humain. On perd vite de la tête, c'est pour ça qu'on met un bonnet, un chapeau, etc. La maison, déjà, c'est une première étape. Moi, c'est ce que j'ai appris dans ma formation, c'est 30 à 40% pour le toit.
D'accord.
Donc déjà, bien isoler son toit. Ensuite, évidemment, les menuiseries, hein, les menuiseries extérieures, et évidemment, après les murs, mais la rénovation énergétique, ça doit être une offre globale, ça doit être quelque chose de vu en globalité.
C'est ça,
on peut le faire éventuellement par étapes, mais il faut le voir en ensemble.
Il faut voir l'ensemble de tout ce
tout
qu'il faut faire pour arriver à un résultat probant.
Tout à fait.
Et les demandes les plus fréquentes que l'on vous fait.
Alors moi, en
maçonnerie,
parce
que vous avez votre œil d'expert, mais après il y a les demandes des particuliers.
Moi, principalement dans la maçonnerie, ça sera l'isolation des murs, évidemment, et de la toiture. Mais bon, je vous dis, il y a un certain champ sur les PAC, hein, donc sur les pompes à chaleur, qui n'est pas du tout mon domaine, mais il y a beaucoup de demandes là-dessus aussi, évidemment, puisque avec l'augmentation des coûts de l'énergie,
bien sûr,
ça coule de source.
Alors, j'ai lu, vous allez me confirmer, que les logements en Île-de-France pourraient être plus énergivores que dans les autres régions.
Je connais pas ce rapport, mais c'est possible puisqu'il y a énormément à rénover et qu'on a un bâti qui est peut-être plus ancien, plus dense.
Ça serait à ce niveau-là.
Une massification. Alors c'est le terme très très en vogue, mais qui nous plaît pas trop chez nous parce que on a du mal à voir ce que c'est que la massification en termes de rénovation de plusieurs maisons rurales à coller. Certainement des objectifs une nouvelle fois difficiles à atteindre de par la technique. Et de par le volume de chiffre d'affaires qui va être sur le marché.
Qui va être généré,
Devrait d'ailleurs, puisque ce sont des objectifs, je le rappelle, du gouvernement.
Oui, absolument. Oui, c'est ce qu'on a dit au départ.
Voilà.
C'est vraiment des obligations gouvernementales. Vous avez parlé de l'isolation thermique extérieure. Alors, bien sûr, elle est plus chère, mais elle génère plus d'aide.
Elle est surtout plus efficace.
D'accord.
C'est-à-dire que par ce qu'on appelle l'ITE, donc isolation thermique par l'extérieur, on va supprimer le maximum de ponts thermiques. Donc les ponts thermiques, c'est ce qui va créer du froid chez vous, donc de la perte d'énergie. Voilà. Donc l'ITE, c'est grosso modo le net plus ultra au niveau de l'isolation.
Et alors, on en vient, vous mettez en garde contre les arnaques.
Toujours.
Puisque je crois que vous avez, la CAPEB a signé un partenariat avec, vous parliez de Val-d'Oise Rénov', mais c'est France Rénov' aujourd'hui.
Bien sûr.
Avec des vidéos sur la fraude des éco-délinquants. Alors,
oui, tout à fait. Donc ça fait partie des sujets sensibles. Hein, c'est que aujourd'hui, vous avez des gens... Je l'avais rappelé la dernière fois. Comme vous avez un chiffre d'affaires, donc forcément de l'argent à faire, ça fait un appel d'air et ça appelle les escrocs. Donc
escrocs,
vous avez des gens qui ne sont pas entrepreneurs en bâtiment, mais qui vont faire des travaux, soi-disant à moindre coût, ce qui est totalement faux, bien la plupart des cas, mais qui va surtout ne pas être, ces travaux ne vont pas être pertinents
et
non efficaces.
Et surtout peut-être ne pas déclencher les aides
tout à fait.
Qui devraient être reçues. Pour ces travaux.
Et madame la directrice de la DTPP avait bien rappelé que vous avez, parfois il y a des offres qui sont faites avec des financements, avec des taux de crédit à 17 ou 18%, donc ce qui est une véritable arnaque. Il faut faire très très attention, c'est pour ça que je rappelle plutôt aller vers France Rénov'.
C'est ça, France Rénov'.
Et donc vous avez sur le site internet de France Rénov', vous avez des petites vidéos qui sont en ligne et qui donnent tous les conseils pour pas se faire arnaquer.
Alors vous insistiez sur la précision entre les travaux et puis la facture.
Oui.
Il y a des délais aussi entre un dossier abouti et la fin des travaux.
Peut-être Ludovic peut-être plus m'aider sur le sujet, le délai des dossiers et de la facturation et du règlement.
Entre le moment où on décide de faire des travaux et puis le moment où les travaux sont terminés, quel délai faut-il
C'est-à-dire qu'au départ, les délais sont pas énormes dans le sens où l'entreprise fait son devis, faut ouvrir le dossier avant, l'entreprise fait son devis, le devis est transmis à l'organisme qui gère, c'est l'ANA pour la prime rénov et pour les certificats d'économie d'énergie, c'est un certain nombre de partenaires autres. Comme le disait le président, il y a quand même des règles à respecter qui sont assez contraignantes, qui peuvent éloigner certaines entreprises de se lancer dans ce type de démarche. Et après, donc, faut bien respecter effectivement un certain nombre de règles, mais là où le problème se pose souvent, c'est une fois que le dossier est monté, une fois qu'il est entre les mains des organismes, c'est le délai pour récupérer la prime qui concerne les travaux.
Oui.
Si il n'y a pas entre-temps des observations sur l'adresse de la facturation, d'une information.
Il faut être très très rigoureux.
Et le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément
au départ.
Au fur et à mesure, on le saurait dès le départ. On dit attention, là, votre dossier, votre devis, il faut le refaire parce qu'il manque ça. Bon, ben là, on laisse le dossier avancer. Et puis quand il s'agit de toucher la prime, attention, il y a quelque chose qui... C'est pour ça que France Rénov ou Val d'Oise Rénov, c'est que la même chose.
c'est appelé autrement.
C'est important pour les particuliers de s'appuyer sur ce type d'organisme parce que justement, là, elles seront bien accompagnées.
Ils ont l'assurance d'arriver au bout.
Voilà, nous, on accompagne les entreprises par rapport à ça, via notre
bien
service
sûr.
Juridique, aussi on forme au sein de nos CAPEB ce qu'on appelle des RARs, R-A-R. C'est donc accompagnement, rénovation énergétique. Et donc, pour justement que les entreprises s'y retrouvent de façon un peu plus claire dans toutes ces démarches, quoi.
Bien sûr. Jean-Luc Sossois, si des auditrices, auditeurs nous écoutent et ont ce genre de travaux à faire, comment peuvent-ils, on peut savoir que l'artisan, c'est un adhérent CAPEB, enfin, que c'est quelqu'un de sérieux, comment on fait?
Alors. La première chose, je répète, France Rénov.
C'est
une des premières étapes.
C'est vraiment la référence.
Voilà, vous aurez des gens, des experts qui vont pouvoir conseiller chacun. Ensuite, évidemment, demander des devis détaillés avec des entreprises qui sont qualifiées RGE. Mais je le répète, c'est pas parce qu'on est qualifié RGE dans un domaine qu'on est qualifié dans tous les domaines. Donc, il faut que l'entreprise soit qualifiée dans le domaine qui concerne les travaux.
Dont on a besoin,
On va dire l'isolation thermique. Il faut que l'entreprise soit qualifiée RGE. Voilà.
Très bien.
Après, elle peut faire une qualification RGE chantier par chantier, cette entreprise. Donc, c'est pas forcément non plus une obligation. C'est un peu complexe, mais vous voyez, pour ça que France Rénov est important.
Oui.
Et évidemment, avoir des devis qui sont détaillés, que l'on puisse comparer.
Oui. Voilà.
Avec le nombre de mètres carrés, non pas, tout un laïus, qui peut être parfois de 5 lignes, avec un total à la fin.
Oui,
on fuit. Voilà. Donc on va chercher un devis détaillé avec des quantités, avec des prix unitaires, avec toute une nomenclature si possible, voilà, pour qu'on puisse comparer.
Si vous aviez un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs s'ils ont des travaux à faire, donc France Rénov, compris.
Devis détaillé, ne pas hésiter à demander des devis détaillés. Demander des assurances aussi.
Oui.
Je veux dire, une entreprise qui est assurée n'a rien à cacher, donc il n'y a pas de raison qu'elle aille ne pas me donner son assurance, qu'elle soit décennale et civile. Mais évidemment, décennale par rapport au domaine du travaux qui est des travaux qui sont faits, réalisés. Ça, c'est encore un conseil. Et puis, bien acter le planning.
Démarrage
travaux et les règlements. Il faut répondre à la demande de règlement de l'entreprise, mais pas non plus tout régler trop vite. Donc il faut que ça soit bien acté avant, ça évite les mauvaises surprises.
Oui, bien sûr. Alors je sais que vous êtes répartis un petit peu les thèmes abordés. Il y a l'accès au crédit immobilier. Jean-Luc, c'est vous qui nous en parlez aussi.
Oui, tout à fait. Oui, c'est grosso modo un drame actuellement. puisque vous savez que les taux ont augmenté. Je le répète, les banques sont de plus en plus frileuses, donc un accès au prêt qui est très compliqué pour les Français, que ce soit pour l'acquisition, que ce soit pour des travaux de rénovation globale, puisque ça peut être conséquent. Et donc c'est un frein. C'est un frein véritable. On a presque la disparition aussi de ce qu'on appelle les prêts relais. Alors qu'aujourd'hui, avant, il y a quelques années, ça se faisait couramment. Quelqu'un vendait son bien, mais pas tout
en
de suite.
Et voilà, vente,
en attendant. Apparemment, ça c'est quasiment arrêté. C'est-à-dire que avec une petite sensibilité sur le cours immobilier, forcément, il y a peut-être. Donc ça, c'est aussi un sujet. Donc ce sont des travaux qui sont, à mon avis, reportés, voire annulés. Et ça, c'est dramatique.
Et donc là, dans ce cas-là, la CAPEB essaie de négocier.
Nous intervenons et on en parle aux députés, aux sénateurs que nous rencontrons, à Monsieur le Préfet, Monsieur Philippe Cour aussi, évidemment. Donc, je sais qu'ils nous écoutent. On espère qu'ils agiront en ce sens. Mais on attend aussi peut-être la prochaine décision de Madame Lagarde, savoir si les taux, si on continue encore à augmenter, soi-disant pour contenir l'inflation. Nous, on a quand même de l'inflation des matériaux. C'est pas spécialement, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas spécialement les taux. Bon, voilà, donc on est très inquiet.
Vous êtes là où vous êtes forcément dans une situation.
Je suis désolé, je suis pas pessimiste, mais on l'a déjà dit il y a quelques mois préfet. On est très inquiet parce que c'était annoncé, ça se sentait depuis la fin 2022. Ça se confirme et je vous l'ai dit, -0,5 au deuxième trimestre au niveau national, c'est pas bon du tout. Et c'est pas bon pour l'emploi.
Et un mot sur votre entreprise ? Puis la coopérative.
Écoutez, la coopérative, on a un succès fou, donc des chantiers en offre globale par des artisans regroupés, c'est toujours, je pense que c'est très apprécié. La maçonnerie se porte pas mal, on a des concurrences qui sont plus ou moins légales, mais enfin bon, c'est encore un autre sujet.
Oui, c'est un autre sujet.
Voilà, les sujets sont vastes. Voilà, et puis on essaie toujours de bien faire, de contenter le client.
Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Luc Sursois, président de la CAPEB du Val d'Oise, pour toutes ces informations très intéressantes et puis qui concernent notre quotidien. Rappelez-nous ce qu'il faut faire pour être adhérent de la CAPEB.
Tout simplement venir rencontrer la CAPEB, par exemple, vendredi prochain à partir de 11h.
À Saint-Ouen-le-Mont.
Tous les artisans sont accueillis avec plaisir. Il y a d'ailleurs un beau voyage à gagner, enfin un beau séjour à gagner d'une semaine, je crois, et puis 2-3 autres lots. Il y a beaucoup de partenaires qui seront là, mais Ludovic va en reparler. Donc, il suffit de venir nous voir, de nous rencontrer. On montrera tous nos avantages parce qu'ils sont nombreux à la CAPEB, avec les services que l'on amène et aussi des partenariats avec des sociétés de location, je ne citerai pas de nom. Beaucoup d'intérêt. Et évidemment, cette défense, vous voyez l'énergie qu'on déploie pour défendre les artisans. Je ne suis pas le seul, on est nombreux en France, surtout les départements, les régions, parce que je vous le dis, il y a aussi au niveau régional et national. Donc on est en pleine défense. En pleine défense de nos intérêts.
Voilà, donc si des artisans, artisanes nous écoutent et dans le bâtiment, qu'ils n'hésitent pas à devenir adhérents de la CAPEB.
Oui, parce que nous sommes les représentants des artisans et des TPE.
Oui. Merci beaucoup Jean-Luc Sossois. On marque une pause et puis on se retrouve juste après.
Merci.
Vers le ciel ou plutôt qui s'arrête au plafond de ma chambre. Encore combien de temps, encore combien de larmes pour les faire redescendre. Je me sens bien nulle part entre rêve et tourment, c'est dur de faire semblant. Je dois briser ce qui m'enferme, écouter les appels de mon cœur tremblant. Je partirai bien au bord de la mer, oh, 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 oh. Là où le goût n'est plus amer. Je partirai bien au bord de la mer, oh, 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 oh. Et dans ses bras j'irai me perdre, oh, 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 oh. Entendre le bruit des vagues étouffer doucement ce silence inquiétant. Nos pieds dans le sable, les joues encore salées, caressées par le vent. Dans l'air un doux parfum, c'est bien la première fois que je me sens vivant. L'horizon est immense, donnant plus de chance aux étoiles filantes. Je partirai bien au bord de la mer, là où le goût n'est plus amer. Je partirai bien au bord de la mer, et dans ses bras j'irai me.
je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire, je dois me trouver déjà. Alors je ferme les yeux, imagine tout ça. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire, je dois me trouver déjà. Alors je ferme les yeux, imagine tout ça. J'irai bien au bord de la mer, oh, 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 oh. Là où le goût n'est plus amer, oh, 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 oh. Je partirai bien au bord de la mer, oh, 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 oh. Et dans ces bras j'irai me perdre, oh, 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 oh. Je partirai bien au bord de la mer. Je partirai bien au bord de la mer.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct, rénovation énergétique et septembre en or sont nos thèmes de prédilection pour cette reprise de l'émission. Avec à mes côtés Jean-Luc Saussois, président de la CAPEB 95, vice-président CAPEB Grande Couronne Île-de-France, vice-président U2P 95, chef d'entreprise de la SARL Saussois, associé de la coopérative artisanale de construction. Ludovic Mirmont, secrétaire général de la CAPEB Grande Défense Île-de-France. CAPEB Grande Couronne Île-de-France. Vanessa DeVos, vice-présidente de l'association Élise Princesse Courageuse. Émilie Minck Montuclar, photographe, créatrice et dirigeante du studio Pixeli à Saint-Leu-la-Forêt. Ludovic Mirmont, alors comme Jean-Luc Saussois, votre président, on peut reprendre les grandes lignes structurelles de la CAPEB qui est présente sur l'hexagone et les dom-toms. Hein. C'est un véritable réseau d'hommes et de femmes que vous connaissez bien hein, puisque vous êtes dans la CAPEB depuis pas mal d'années.
Exact. Oui, la CAPEB, c'est la donc Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Donc historiquement, effectivement, nous défendons et nous représentons les entreprises artisanales du bâtiment. Mais on constate également que des entreprises d'une taille plus importante que la taille artisanale partagent nos combats, partagent nos idées et donc se retrouvent bien aussi au sein de la CAPEB.
C'est ça, oui. Pour ces artisans, c'est un pilier.
Exactement. Et puis bon, donc la CAPEB effectue ça deux aspects. L'aspect politique, défense des intérêts, représentativité. Et à côté de ça, il y a plusieurs services que l'on a mis en place au fur et à mesure des années. Donc on peut accompagner les entreprises à se former, on peut les accompagner à obtenir leur qualification, on peut les défendre et les aider dans le cadre de litiges juridiques, questions techniques, partenariat avec plusieurs partenaires, voilà. Donc c'est un tout en fait, c'est un tout entre les services et l'action que l'on mène auprès des pouvoirs publics. D'où l'efficacité du binôme artisan-élu et service administratif, puisque les deux ensemble permettent d'un côté d'avoir le service et de l'autre côté d'avoir le côté ce que vivent les entreprises
c'est
au quotidien
ça,
et ce qu'elles veulent défendre au plus haut niveau.
Ça fait un binôme fort.
Voilà, efficace.
Efficace. Tout à l'heure, je demandais à Jean-Luc Saussois comment devenir adhérent. Il y a peut-être une adhésion à verser. Est-ce qu'on peut en parler?
Oui, tout à fait. Bon, les entreprises, donc, la base, c'est que la CAPEB, on est là donc pour représenter et on est plus fort unis ensemble que
bien
tout
sûr.
Seul, isolé, à se battre avec ses problèmes du quotidien. Donc déjà, ça, c'est une première démarche. Là, après, la CAPEB, effectivement, c'est une adhésion volontaire que l'entreprise paye sur l'année, qui est aux environs de 300 euros.
D'accord. Hein,
donc il donne accès à tous les services qui sont mis à disposition, défense juridique, accompagnement qualification, accompagnement quand les entreprises veulent se former et pour les accompagner dans leur demande de prise en charge, parce que aussi souvent les entreprises pensent que s'inscrire à une formation, ça a un coût, mais elles voient pas qu'à côté, elles peuvent demander auprès d'organismes une prise en charge.
C'est ça. C'est pas une dépense, c'est un investissement.
Voilà. Ouais. Et en plus, au final, certaines formations, l'entreprise peut récupérer, couvrir le coût. Mmh. C'est se former pour après développer son activité et développer son entreprise. Donc après, il suffit de nous appeler. Donc nous, on a 4 sites sur la Grande Couronne, puisque IDFM et rayonne sur toute l'île de France.
Oui, absolument.
Donc on a un site sur la Seine-et-Marne, à Bricontrobert, un site sur l'Essonne, sur Arpajon, un site sur les Yvelines à Bois d'Arcy, et donc notre siège qui est historiquement sur le Val d'Oise et qui est à Saint-Ouen-l'Aumône après avoir été durant pas mal d'années sur Beauchamp. Parce que la CAPEB existe depuis 1945 au niveau national. Donc c'est structuré au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est la première organisation patronale de France en nombre d'adhérents. Donc voilà, ça compte quand on discute avec les pouvoirs publics.
Bien sûr, oui, ils sont attentifs à vos réactions. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est le salon Rénaudaise, un forum créé par les organisateurs du salon Batimat, qui est programmé aujourd'hui et demain au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles. Je vous laisse nous en dire quelques mots, Ludovic.
Alors, c'est un salon, effectivement, pour faire une alternance avec Batimat, qui a lieu tous les 2 ans. Donc, cette année, il y a ce salon, donc, Rénaudaise. Je crois que c'est la deuxième. C'est nous, la CAPEB, c'est la première année où on a un stand au niveau.
Oui.
La CAPEB nationale, donc, a un espace sur ce salon qui est consacré à la rénovation énergétique. Donc, tous les points qu'on a soulevés précédemment, les questions qu'on se pose par rapport à la rénovation énergétique, par rapport aux conseils, sur les aides qui existent, sur les formations qui sont proposées, là, on trouve les réponses à toutes ces interrogations dans le cadre de ce salon Rénaudaise, qui est vraiment axé rénovation énergétique. Oui. Donc, la CAPEB nationale a un espace, un stand, qui est donc conjointement tenu par la CAPEB Île-de-France. Et nous, CAPEB Grande Couronne, comme nos collègues de la CAPEB Grand Paris, nous sommes présents pour accueillir les visiteurs, les conseillers et leur donner quelques infos déjà au départ. Donc c'est un salon qui a lieu aujourd'hui et demain.
Oui.
Donc pour s'inscrire, si des entreprises souhaitent s'inscrire, elles peuvent aller, elles nous appellent à la CAPEB, on leur donnera un mot de passe pour pouvoir avoir une entrée gratuite. Je pense que ça fonctionne toujours puisque le salon a ouvert ce matin.
Bien sûr.
Et voilà, donc c'est un salon où on attend, c'est national, donc on attend plusieurs milliers de visiteurs, artisans, chefs d'entreprise, d'entreprises plus importantes, architectes,
c'est très,
tout ce qui tourne autour
de... Le spectre est assez large.
Alors, la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, son numéro de téléphone, 01 34 32 33 66. Je répète, 01 34 32 33 66.
Voilà, très bien. Donc si vous venez écouter et que vous voulez aller à la CAPEB, au salon Rénaudaise, la CAPEB est présente hall 6, stand A08. Pour y retrouver tous les artisans du bâtiment, principaux acteurs de la rénovation énergétique des logements, prêts pour ce rendez-vous et qui participent à l'événement et représentent toutes les entreprises artisanales de multiples façons. C'est ce que vous nous disiez.
Et juste pour compléter, donc les entreprises artisanales du bâtiment, leur clientèle, on va dire principale, c'est quand même les particuliers. Donc c'est les particuliers aussi qui engagent, bien que maintenant il y a aussi le tertiaire qui commence à être aidé pour ce type de travaux, mais travaux d'économie d'énergie. Donc c'est vraiment un salon qui est fait pour
si on a vraiment
qui interviennent sur ce type de marché, quoi.
Et je dirais même peut-être en dehors des artisans, peut-être des particuliers qui veulent avoir des renseignements sur ces problèmes d'isolation thermique.
Bien sûr, c'est important. Oui, c'est important que ça soit consommateur, maître d'ouvrage comme entreprise. les aides soient bien connues et chacun sache comment faire pour trouver
et
la bonne entreprise,
qui le faire.
Comment voilà quel type de travaux, quels sont les choix dans les travaux prioritaires, etc. Quoi.
Alors l'actualité, c'est aussi ces rencontres CAPEB Grande Couronne, dont il y en a une le 15 septembre, c'est-à-dire vendredi à Saint-Ouen-le-Maune. C'est l'occasion de rencontrer les gens du Val d'Oise, les élus, les services, les partenaires.
C'est ça. Alors ça, c'est donc les rencontres de la CAPEB, c'est un événement qu'on a mis en place il y a environ 2 ans, et sur chacune de nos antennes. Donc, ça en fait à peu près une par mois, effectivement. On a créé ce qu'on appelle les rencontres de la CAPEB. C'est on invite toute entreprise, il n'y a pas de souci, peut venir rencontrer nos partenaires. Alors, les partenaires, on en a cette année, alors j'ai pris la liste pour vous donner à peu près le nombre de présents. Donc, on en a une dizaine, 10, 12. Donc, il y a l'aide, tout ce qui est dossier de qualification avec Calibat qui sera là. Constructis, c'est justement tout ce qui est accompagnement des salariés pour la prise en charge des formations. La PASS BTP qui est un petit peu le CE pour toutes les entreprises du bâtiment, les salariés des entreprises du bâtiment. Caliga, ça c'est pour les plombiers. L'ARFAB, c'est pour la formation. Voilà, bon bref, tous les partenaires qui tournent un petit peu autour du secteur du bâtiment. Il y a les services de la CAPEB qui sont là aussi, services juridiques,
bien sûr,
accompagnement au montage des dossiers, services formation. Donc là, on peut aussi bien renseigner les entreprises sur leurs attentes, leurs besoins. Et puis un buffet offert. Donc ça démarre à 11h, ça finit vers 15h. A priori, il fera beau, donc on va peut-être profiter du beau temps pour se mettre à l'extérieur. Bon, il y aura un jus de raisin pour accompagner un peu tout le buffet. Voilà, quand vous parlez tout à l'heure.
Plus ou moins fort en goût.
Voilà, c'est ça, avec des degrés plus ou moins élevés.
Oui, oui.
Et on a aussi des véhicules qui seront exposés, donc des véhicules alors qui sortent un petit peu de ce qu'on le véhicule qu'on trouve habituellement commun. Alors peut-être après on fera les motos. Là, c'est des voitures.
D'accord.
Et on va essayer. Voilà, on essaye à chaque fois de trouver
d'innover
des idées. Et donc nouveauté là justement de cette année, c'est une tombola. On peut gagner donc un séjour d'une semaine, un coffret gourmand avec foie gras, champagne, voilà, enfin des choses sympas, puis d'autres lots aussi qui sont à gagner.
Très
donc
bien.
Là, il suffit d'être présent au moment du tirage au sort, de venir nous voir, et puis on peut repartir avec un superbe lot.
Alors si je peux préciser, donc le voyage, une semaine pour 2 personnes d'une valeur de 1 318 €.
Oui, quand même.
Un panier gourmand d'une valeur de 475 €.
Ah oui.
Et ensuite un coffret 6 bouteilles de Vouvray. Donc espère que
bravo.
Ça fera des heureux.
Et moi j'ai eu le plaisir de participer à ce salon au mois de juin.
Alors, le salon,
et
oui.
C'est vrai que c'était une rencontre comme ça.
Alors le salon, c'est encore complète.
C'est
encore un autre événement pour nous, puisque
d'accord.
C'est notre salon annuel.
D'accord.
Début juin, donc ça tombe bien que vous en parliez, parce que je voulais faire une petite transition, donc je saisis.
Oui.
Évidemment, il y aura notre salon en 2024, début juin.
D'accord.
Donc vous y serez conviés, on reviendra. Ludovic va certainement travailler ardemment sur le sujet, puisque c'est vraiment quelque chose qui a été très réussi au niveau, on va dire, technique, mais aussi politique. Hein. On a eu la présence d'une députée, d'un sénateur, Émilie Chandler, de Sébastien Meurant, sénateur.
Oui.
Du président de la chambre de métier, monsieur Aletsef, monsieur Pueyot, monsieur Claude. Donc un grand succès, beaucoup d'échanges, c'est important, hein, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, on agit, donc c'est aussi important d'avoir des échanges avec ces politiques, mais que les artisans puissent les voir aussi, puisque c'est du concret, vous l'avez vu.
Ils se rendent compte que les gens sont là.
Les échanges sont vifs en plus, hein, je ne sais pas si
absolument.
Vous avez pu constater, mais les échanges étaient vifs parce qu'il y a des sensibilités évidemment différentes. Et c'est important, et je m'en félicite, et j'espère que l'année prochaine on aura encore un peu plus d'élus et de politiques pour discuter de tout ça, parce que effectivement c'est comme ça que l'on agit.
Moi, j'avais retenu une ambiance très conviviale. J'ai pas assisté aux discussions vives. J'ai retenu un moment très convivial et l'occasion de rencontrer aussi beaucoup d'artisans.
Et ça sera pour juin 2024.
Très bien.
Mais venez nombreux vendredi à
Saint-Ouen-l'Aumône,
43 rue des Pluches, à partir de 11h. Un buffet, des lots à gagner, plein de gens à rencontrer, des services compétents.
Le beau temps.
C'est ça. Et l'occasion peut-être d'adhérer à la CAPEB.
Bah quoi, bah, on sera présents.
Ceux qui connaissent pas la CAPEB.
Adhérents ou pas, vous êtes les bienvenus.
Ludovic,
et c'est gratuit. Hein.
C'est gratuit. Ludovic Miremont, juste avant de terminer, si vous aviez des besoins exprimés pour la CAPEB, quels seraient-ils ?
Non, juste ce que je pourrais préciser, c'est que la CAPEB fait partie de l'UDP,
l'Union des entreprises
de proximité. Donc c'est toujours important à rappeler, puisque l'UDP regroupe l'artisanat et les professions libérales. Donc on a tous les métiers de service qui sont dedans. On a aussi tous les métiers de bouche. On a nous la CAPEB pour le bâtiment et les professions libérales représentées par l'UNAPL. Donc CNAMS, CGAD, CAPEB, UNAPL. Et on est l'organisation représentative au niveau de l'artisanat et des petites entreprises et des professions libérales, commerce de proximité hein, également, puisque les bouchers, etc., les boulangers sont inclus dedans. Et on est reconnu représentatif au même titre que le MEDEF, qui vient plutôt à l'esprit des gens quand on parle d'organisation patronale, et au même titre que la CPME,
oui, c'est ça, oui, dans vous les êtes trois dans la même mouvance, chacun dans votre
chacun
spécialité.
Chacun dans notre, par rapport aux entreprises que l'on représente.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Ludovic Miremont, secrétaire général de la CAPEB, pardon, pour cet échange. J'ai un chat dans la gorge, et nous avoir présenté toutes ces spécificités nécessaires à relever le défi aussi avec Jean-Luc Sossois de la rénovation de nos logements. Donc on rappelle rapidement ce salon de Rénodez aujourd'hui et demain à la Porte de Versailles, Hall 6, stand A08 pour la CAPEB, et vendredi une rencontre très conviviale avec de nombreux lots à gagner suite à une tombola à Saint-Ouen-l'Aumône.
Et une ambiance aussi agréable et convivial.
C'est vrai, c'est vrai. Merci infiniment à
Merci
tous les
à vous.
Deux.
Merci.
C'est l'heure d'une nouvelle pause. À tout de suite.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé. Le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre, n'oubliez pas, le shit planqué sous l'étagère, tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre, je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Ma liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'en porterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. liberté de penser. Ma liberté de penser.
Florent Pagny, ma liberté de penser. C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. CAPEB, Septembre en or sont les thèmes de notre émission. Et je suis toujours en compagnie de Jean-Luc Saussoir, président de la CAPEB 95, Ludovic Mirmont, secrétaire général de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, Vanessa DeVos, vice-présidente de l'association Élise Princesse Courageuse, Émilie Minck-Montuclar, dirigeante du studio Pixeli à Saint-Leu-la-Forêt. À présent, focus sur vous, Vanessa. Alors, Septembre en or, issu de Gold in September, a été initié en France en 2016 par l'Institut Gustave Roussy pour faire avancer la lutte contre les cancers de l'enfant. Pour rappel, on a des chiffres qui restent encore beaucoup trop importants, Vanessa, au niveau du cancer de l'enfant.
De l'enfant, oui, c'est bien ça. Bah, forcément, enfin, cancer et enfant, c'est difficile d'associer ces deux mots, effectivement. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, il y a environ 2500 enfants et adolescents qui sont touchés chaque année. En France, selon l'Institut national du cancer. Et dans ces 2500 enfants, il y a environ 450 nouveaux cas chez les adolescents de 15 à 17 ans. Alors, il y a des progrès, il y a de l'innovation thérapeutique, bien sûr, elle est grandissante, mais malgré tout, il y a encore un enfant sur cinq qui ne survivra pas. Mmh. Et à ce jour, plus de 80% vont guérir, mais ils vont guérir avec des impacts.
Oui, oui.
Des impacts qui vont être liés aux séquelles de leur cancer, mais aussi aux effets secondaires des traitements, et qui sont parfois pas très visibles et connus aussi de toute notre société, parce que un enfant ne peut pas être malade et encore moins d'un cancer et encore moins décédé. Ce n'est pas dans l'ordre des choses.
Bien sûr.
Voilà. Ouais.
Et alors, vous, Vanessa, vous avez malheureusement vécu ce drame, hein, redouté par n'importe mm-hmm. quel parent. Et après le départ de votre princesse, vous avez choisi de continuer un combat qu'elle-même avait initié malgré son très jeune âge.
Oui, tout à fait. Élise a été diagnostiquée à l'âge de 3 ans et demi. Mm. Et il y a eu des traitements diagnostiques, traitements conventionnels, chirurgie, des chimiothérapies haute dose pendant toute une année. Elle a été en période de rémission et qui n'est pas simple aussi, parce qu'il faut vivre et survivre avec tous ces impacts dans une société qui est parfois maladroite ou pas habitué, ou pour lequel les choses sont compliquées. Il y a aussi une violence administrative. Et il y a eu une rechute d'Élise. C'était une tumeur très rare, un pinéaloblastome métastatique en 2017. Où là, Élise a vraiment pris conscience. Elle a un âge où elle ressentait vraiment le malaise de l'adulte face à cette maladie grave, et où elle a vraiment décidé de s'investir pour s'aider elle-même et exister aussi en tant que petite fille, que ce soit à l'école, à la maison, à l'hôpital. Et elle a été très active avec ses amis à l'école. Elle a initié des ateliers petits porte-clés Tisami, pour lesquels maintenant il y en a 50 000 qui voyagent dans le monde, pour justement briser un peu ce tabou de la maladie grave et au-delà de ça l'accompagnement, la mort de l'enfant. Et donc, vraiment, briser le tabou, rendre l'autre acteur, en fait, sur un sujet qui est complexe et tabou pour tout le monde. Donc oui, depuis son départ en 2019, parce qu'elle a eu 6 ans de parcours, elle a pu initier quelques missions et, on va dire, porter sa voix aussi...
Oui, c'est ça. Cette maladie lui a donné une maturité que voilà rare, hein, puisqu'elle était elle était très jeune quand même.
Oui, elle nous dit elle avait 7 ans à la rechute, 9 ans lorsqu'elle est décédée, et c'est vraiment ces 3 ans. Après, il faut pas sous-estimer aussi, on va dire, la capacité de l'enfant à comprendre ce qui lui arrive. L'adulte est beaucoup plus parasité, on va dire, que l'enfant.
Oui.
Et voilà, là, je vous dis, Élise avait trouvé ce moyen assez simple pour créer du lien et parler vraiment d'un sujet tabou et lever les premiers fonds. Et ça a été un véritable relais donc dans notre ville, hein, parce que ça a été le premier relais, ces commerçants qui ont relayé en fait son combat, parce que Élise peignait beaucoup avec son frère et offrait et vendait ses portes. Clés, donc les 3000 premiers euros qui ont été reversés aux équipes pluridisciplinaires de Gustave Roussy. Gustave Roussy qui est vraiment le premier centre de lutte contre le cancer en Europe et le troisième mondial. Donc elle a pu faire profiter de ces petites graines, voilà, du haut effectivement de ses 7 ans. Et voilà, et faire voyager à travers le monde pour ouvrir la parole, voilà, de l'enfant et casser un petit peu ce tabou. Et effectivement, jusqu'à l'Élysée et nos députés de circonscription.
Oui, c'est ça. Oui, puisqu'il y a une loi également qui a été, je crois, la loi Élise, hein, qui pour venir justement en aide à tous ces problèmes de cancer pédiatrique.
Oui, il y a des nombreux acteurs. De soins, des patients, enfin qui se coordonnent pour lutter contre le cancer. Et en fait, moi je dirais qu'il faut aussi arrêter d'avoir cette image négative, oui, d'utiliser pour lutter contre le cancer, parce que ça touche tout le monde, les adultes, les enfants, et que je dirais plutôt où il faut faire face. En fait, ensemble, coordonner des actions de partenariat. Alors ça, c'est aussi le rôle des collectifs qui se créent de parents et qui travaillent avec les institutions, les chercheurs, les cliniciens. Il y en a 3 en France qui sont l'UNAPEC, le Gravir, Grandir sans cancer, qui ont vraiment cet objectif. Et je pense qu'on a tous, personnel de soins, chercheurs, parents, de mieux prendre en compte les enfants et les adolescents malades et leurs proches. Et effectivement, Madame Nathalie Elimas, à l'époque, enfin députée du Val d'Oise, a fait un gros travail avec cette loi du 8 mars 2019 qui a été votée quelques jours après la rencontre d'Élise auprès de Monsieur le Président et son épouse. Madame Macron, cette loi vise vraiment à renforcer cette prise en charge des cancers pédiatriques et de faire exister en fait ce problème qui est un problème quand même de société. Elle a apporté enfin des fonds pour la recherche vraiment dédiée au cancer de l'enfant. Donc ce sont des petites sommes,
oui,
peut-être.
Mais comme on dit, les petites rivières font des grands fleuves.
Oui, fleuves. Voilà, sur les 70 millions dédiés, on va dire, à la recherche, 5 ont été alloués en pédiatrie. L'année d'après, ça a été 20 millions. Donc voilà, ça amorce quelque chose.
Ça a vraiment créé un mouvement.
Un mouvement. Et il y a aussi tout ce travail qui a été fait par Madame Elimas sur le soutien aussi aux aidants. familiaux.
Oui, parce qu'il faut pas les oublier.
Non.
C'est important.
Ouais, sans aidants, je pense que les équipes en pédiatrie ne peuvent pas avancer et l'inverse aussi. Donc on est vraiment tous liés. Il y a aussi une mise en avant sur les problématiques de la formation des professionnels. Voilà, au-delà de susciter des vocations où on est quand même, c'est assez compliqué en ce moment sur les conditions de travail, mais il faut aussi être formé à la pédiatrie. On ne prend pas en charge un adulte comme on prend en charge un enfant, et donc il y a toute cette problématique qui rentre en ligne de compte, pour lesquelles vous avez encore des hôpitaux, que ce soit des hôpitaux de référence comme des hôpitaux de proximité, qui sont obligés de fermer des lits l'été par manque de personnel et il y a manque de formation. Donc voilà, cette loi, elle rappelle à quel point c'est important aussi de former, de prendre soin aussi de ceux qui soignent. Et un grand travail aussi sur le droit à l'oubli, parce que vous voyez, on rejoint aussi toutes ces problématiques de crédit ou autres. Quelle chance on donne aussi à ces jeunes adultes impactés qui vont rentrer dans la vie active, qui vont vouloir construire une vie, faire des crédits, quand ils vont avoir des problématiques. Il y a aussi un passif un peu lourd.
Ouais.
Oui. Voilà. Donc cette loi, elle rappelle un peu tout ça. Et puis après, bon, il y en a quand même, ça en a amorcé d'autres.
Oui.
Ouais, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait par monsieur le député Bricou, et puis en lien avec beaucoup de parents et d'associations en 2022 sur justement l'amélioration du droit des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Et ça, c'est, alors il y a eu, on va dire, un premier refus sur les dons de jours, mais qui est une petite anecdote en fait, parce qu'un parent endeuillé sera endeuillé toute sa vie sur le passage de 5 à 12 jours sur les congés deuil, mais c'est vraiment pour justement marquer et prendre en compte aussi cette problématique de qu'est-ce que l'on fait. Comment on accompagne en fait voilà, la maladie grave, le cancer pédiatrique qui va devenir et qui est quelque chose de chronique, l'accompagnement, le deuil, comment on l'accompagne dans les familles, mais dans les entreprises on peut voir que c'est quelque chose qui est quasi inexistant. Il y a de nombreux sociologues
donc,
qui travaillent là-dessus.
Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Voilà, ouais, donc ça, voilà, cette loi fait aussi beaucoup avancer pour tenter de protéger aussi ces familles contre le licenciement. Voilà, faut savoir qu'il y a encore beaucoup de discrimination et de rembourser. Alors c'est pareil, c'est une petite graine, mais de rembourser quelques séances psychologiques.
Pour éviter la dépression et puis beaucoup
l'accompagner, surtout parce que clairement quand vous perdez un enfant de facto, vous êtes de toute façon bouleversé et en état de choc. Donc non, c'est toute cette petite graine qui font que la maladie, le deuil de l'enfant, est tabou dans notre société et elle commence à vraiment,
ça commence à bouger.
Le mouvement Septembre en Or, qui était vraiment méconnu il y a quelques années, il y a énormément d'actions et de relais. Alors pas autant que Octobre Rose.
Oui.
C'est encore une fois un sujet qui est complexe. Là, vous avez aussi Monsieur le député Michel Lozana qui a déposé un projet de loi pour reconnaître le cancer de l'enfant grande cause nationale 2024. Donc on rend visible, ce dont
on en parle quand même de plus en plus.
Voilà.
Vanessa, vous êtes, on sent que vous êtes complètement investie dans ce problème-là. Je voudrais quand même qu'on parle de cette exposition qui va avoir lieu à Montmorency, puisque Élise Princesse Courageuse a plusieurs actions. Aujourd'hui, il y a en partenariat avec la ville de Montmorency et Gustave Roussy, dont vous avez dit que c'était un pionnier dans ce domaine. L'association d'Élise participe pour la 7e année à Septembre en Or. Donc parlez-nous de, alors parce que on n'a plus beaucoup de temps, donc je voudrais que vous nous parliez de cette exposition puis pouvoir donner la parole à Émilie qui est la photographe de cette exposition.
Oui. Alors, ben, pour être très rapide, cette exposition, elle est là, elle témoigne pour ce que j'expliquais, quoi, dévoiler le regard parfois fébrile et invisible de nos enfants, de nos adolescents, dans un écosystème d'adultes qui va être voilà emprunt avec leur propre représentation du cancer, et donc vraiment en partenariat avec voilà la ville et l'Institut Gustave Roussy, c'est un peu la finalité de notre projet Bulle de mode, qui pour lequel on a eu un prix avec la fondation Cognac G, qui était d'adapter des vêtements pour faciliter le confort et conserver son identité. Donc nous on s'est questionné en fait là-dessus, c'est-à-dire que à travers ce projet Bulle de mode, qui est dans nos missions d'accompagner le mieux vivre à l'hôpital et en dehors lorsqu'on est confronté à cette maladie, et comment rester le plus normal possible. Donc on a un petit peu cassé les sillons du monde de l'entreprise, du luxe, des institutions hospitalières, et puis comment de la mode vestimentaire, hein, pour laquelle on est dans une industrie qui est encore peu mobilisée pour créer des vêtements voilà inclusifs adaptés, et adaptés, et en même temps ils drainent des millions d'invendus et ça fragilise notre écosystème et notre environnement. Donc on s'est posé la question, comment éviter ce gâchis, comment rendre à chaque acteur voilà une mode réellement inclusive, et on a réuni tous ces acteurs dans ce projet Bulle de mode où on a conventionné avec Don Solidaire, Don en Nature, qui avec lesquels on peut mettre un magasin éphémère de vêtements neufs, voilà, au sein de Gustave Roussy, et c'est ce qu'on aimerait en fait ramener dans le Val d'Oise, où les personnes ont la possibilité de choisir des vêtements neufs, de les faire adapter, de les embellir, et c'est dans ce cadre où du coup je vais pouvoir laisser la parole à Émilie de voilà d'accompagner le mieux vivre, où j'ai sollicité Émilie, parce que c'était pas n'importe qui, à venir participer à ces journées Bulle de mode à travers la photographie, pour justement participer à préserver en fait cette dignité, cette estime de soi qu'on a besoin pour exister. Bien et sûr. Pour exister en tant qu'être au-delà de la maladie, et garder cette identité. Et donc voilà, depuis 2 ans on intervient au sein de Gustave Roussy, ça a mobilisé 36 couturières, 2 stylistes, des make-up artistes, Émilie, on a offert plus de 1500 vêtements neufs, effectué plus de 200 adaptations, et ça concerne à peu près 250 familles. Voilà.
Merci Vanessa. Donc vous, Émilie, vous avez vous vous connaissiez avec Vanessa, ou comment a été la rencontre ?
Alors Vanessa, je l'ai rencontrée devant l'école primaire où nos enfants sont entrés ensemble en classe.
Voilà. D'accord, très bien.
Donc là, c'était une rencontre. Ma fille et un
de
des
maman.
Frères. Voilà, ma fille et un des frères d'Élise étaient en classe ensemble.
Très bien, très bien. Et donc, Vanessa a fait appel à vous pour cette exposition. Vous-même, alors on va pas avoir le temps de trop en dire, hein, parce que l'heure tourne. Avant, vous étiez juriste, maintenant vous êtes photographe. Et vous dites vous-même, alors vous avez un panel de clients assez large, hein, pour ceux pour lesquels vous travaillez. Vous dites que ce regard sur les enfants a été très important pour vous.
Oui, alors moi, en tant que photographe, je suis spécialisée dans la photo pour les professionnels, pour la communication. Je travaille avec des entreprises, des artisans, et je fais très peu les particuliers. Donc quand Vanessa a fait appel à moi, au départ, c'était pour faire les reportages sur Bulle de mode. Et puis en croisant les parents dans les couloirs, ils sont venus me voir en me disant « Vous avez un appareil, est-ce que vous pourriez faire des portraits ?» Et elle n'a pas fait appel à moi pour l'exposition au départ.
D'accord,
on n'était pas dans cette idée-là.
Mmh.
Et c'est au fur et à mesure, on s'est rendu compte de l'importance du portrait à la fois pour les enfants d'un point de vue un peu thérapeutique, parce qu'il y a un travail sur leur image, mais aussi pour les parents, parce que c'est un souvenir après.
Absolument, oui. Voilà. Vous parliez de l'oubli tout à l'heure,
Oui, durable, un souvenir durable, transmissible, enfin, c'est ça.
Absolument, absolument. Oui. Mais vous, ça a quand même changé votre votre vision de votre métier de photographe, si j'ai bien compris, Émilie.
Oui, du coup, moi, les portraits, je voyais pas l'intérêt avant, et je l'ai compris, enfin, je l'ai vraiment ressenti là, l'importance du portrait. Et du coup, je m'oriente davantage sur.
Ça fait une nouvelle corde à votre arc.
C'est là. Ça, je m'oriente sur l'humain plus que sur le produit.
Très bien. Bah, écoutez, on a hâte de découvrir cette exposition dont le vernissage aura lieu lundi, soir à la mairie à l'espace Lucie Aubrac à Montmorency.
Et on peut déjà découvrir une partie de l'exposition qui justement a débuté du 1er septembre au 30 septembre.
D'accord.
Du coup, sur les grilles du parc Avenue Émile. Vous avez toute une première partie de portraits, et quand vous scannez ces portraits, vous avez les témoignages des soignants, les témoignages des enfants, des familles, et vous pouvez aussi pour nous aider, Émilie a réservé des créneaux pour réaliser vos shootings aussi en or lors de cette exposition. Donc elle a réservé 2 jours qui sont le mercredi 20 septembre et le samedi 23, où vous pouvez vous aussi venir en famille réaliser vos clichés. Donc vraiment, n'hésitez pas à scanner, il y a des petits flyers, les commerçants de Montmorency se sont
très
mobilisés, ont des tirelires, ou pareil, vous pouvez scanner, ou les entreprises peuvent aussi être partenaires, défiscaliser et parrainer notre exposition du paraître à l'aide pour nous aider aussi à la faire voyager. Il y a des tas de goodies à vendre. On a travaillé aussi avec les écoles du périscolaire de la ville de Montmorency. Il y a eu plus d'une quarantaine de tableaux d'arbres de vie d'après Gustave Klimt qui seront exposés à cette exposition. Les cartes postales sont aussi en vente. Donc n'hésitez pas à dépasser
surtout
vos craintes et à venir
Et rappelez que Septembre en Or, c'est une campagne d'appel aux dons pour le cancer pédiatrique, et qu'il ne faut pas hésiter à être généreux. Voilà, l'émission se termine. Je crois qu'on pourrait vous écouter encore très longtemps, mais vous reviendrez, Émilie et Vanessa.
Avec plaisir.
Donc, juste avant de nous quitter, peut-être un mot de conclusion, Jean-Luc Sossois, avant de nous quitter.
Être beaucoup plus léger, retrouvez-nous vendredi 15 à partir de 11h à Saint-Olomone, les artisans, les petits entrepreneurs du bâtiment du 95 ou département limitrophe, on n'est pas sectaire. Tout le monde est bienvenu et on passera une bonne demi-journée.
Merci Jean-Luc Sossois pour ce rappel. Ludovic Mirmont, juste un mot avant de se quitter.
Non, mais merci pour votre accueil. Et puis, vendredi pour ceux qui peuvent nous rejoindre.
Oui, absolument.
Et je rappelle juste le numéro de téléphone de la CAPEB, 01 34 32 33 66.
Oui, un numéro qu'on retrouvera dans le podcast de l'émission.
Sur notre site internet aussi, sur notre application. Voilà, il y a plusieurs
sources pour vous rejoindre.
Merci beaucoup.
Émilie, je vous laisse dire un mot de conclusion, parce que vous n'avez pas beaucoup témoigné, mais enfin le peu que vous nous avez dit fait qu'on a envie de voir cette exposition.
Oui, alors je rassure les gens, cette exposition, elle est très gaie en réalité.
Moi j'ai vu les photos, c'est très joli.
Les visuels sont assez joyeux, les enfants qui ont posé sont beaux, et on ne voit pas la maladie, mais en même temps c'est ça qui est poignant.
C'est vrai. Ces enfants, c'était facile pour les photographier ?
Les enfants, c'est très facile. Ce sont les parents qui sont plus compliqués.
Ah oui, qui vous donnaient des directives pour à suivre ou pas ?
Non, ils n'aiment pas leur image.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. On n'aime pas être pris en photo. C'est vrai. Vanessa, un mot de conclusion ?
Oui, j'accompagne. Enfin, les paroles d'Émilie pour dire que voilà, cette exposition de photographies et de témoignages, oui, c'est une ode à la vie en tant qu'être.
Oui,
et voilà, n'ayez pas peur. La vulnérabilité touche tout le monde. Et on a choisi, oui, l'art, le beau, le réel, mais pour essayer aussi d'avancer vers l'être. Voilà, l'être et voilà, se transformer, faire société tous ensemble, parce qu'on est tous touchés par la maladie et c'est important de, voilà, de poser son regard dessus.
Oui.
Voilà.
Oui, en espérant que ces campagnes rapportent beaucoup d'argent et que la recherche continue d'avancer contre
la recherche
cancers.
Et l'accompagnement, c'est ça. Parce qu'on arrive à sauver plus en plus d'enfants, mais comment on les accompagne? Comment on accompagne les familles? Comment on les laisse vivre dans cette société? Parce qu'on parle beaucoup d'inclusion.
Oui.
Et comment on vit cette inclusion? Voilà. On parlait beaucoup de lois avec la transition énergétique. C'est pareil pour toutes les causes. Comment on accompagne ces lois? Comment on les met en place dans notre société? C'est notre part de citoyen à tous. Et si on ferme les yeux sur des problèmes comme cela, ça va être compliqué pour avancer.
Ça sera difficile pour le reste de la société.
Voilà.
Merci beaucoup pour, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Vanessa DeVos, maman donc de Élise et de vice-présidente de l'association Élise Princesse Courageuse. Voilà, les merci à tous d'avoir été les invités de l'économie en direct. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidèle écoute. Si ce numéro de l'économie en direct vous a plu, je compte sur vous pour en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, son podcast sera disponible sur le portail de la radio.fr. Vendredi, on se retrouve en compagnie du député Guillaume Vuittet. Et on va parler de logement, Jean-Luc Soussois avec Guillaume.
Vous lui passerez le bonjour de notre part.
Voilà, logement indigne, mais aussi de l'association 60 000 rebonds. Il est temps dans quelques minutes de retrouver Christophe Gravot et son émission Balade musicale. Et moi, je vous dis à vendredi 9h30 et d'ici là, belle journée et belle semaine. I'm